Chapitre 3 Le dossier Fallock. M. Smith était seul dans son bureau de Scotland Yard. Au dehors, les quais voisins et le palais du Parlement étaient noyés dans un brouillard épais qui enveloppait tout Londres depuis 2 jours et devait durer 2 autres jours encore si l'on en croyait les prévisions météorologiques. La pièce était accueillante et gaie avec ses panneaux de chêne, l'élégance sobre de son ameublement, le feu clair de la cheminée au-dessus de laquelle une petite pendulette d'argent au tic-tac musical marquait seule la fuite du temps. Sur une petite table était disposé un plateau contenant le frugal repas du chef policier. Il regarda l'heure, il était 1h25. Il pressa un petit bouton électrique placé sur le côté de sa table bureau, et au bout de quelques secondes, un agent se présenta. « Faites-vous donner le dossier G7941 et apportez-le-moi. » L'agent se retira, M. Smith se versa une tasse de thé. Un pli barrait son front récemment hâlé par l'ardent soleil du midi de la France. On l'avait rappelé en effet soudainement au milieu de ses vacances, pour le charger d'une tâche particulièrement importante et ardue. Il s'agissait de découvrir et d'identifier le plus génial escroc des temps modernes, Montague et Fallock. Et d'ailleurs, dès son retour, cette enquête devenait plus actuelle et pressante que jamais, puisque c'était à Fallock que l'on pouvait attribuer la responsabilité du double meurtre de Brackley Square. Personne n'avait jamais vu Fallock, du moins sous ce nom-là. Il n'existait aucune photographie de lui. Quelques-uns de ses complices subalternes avaient bien été arrêtés, mais ce n'était que de vagues comparses, sous ordres inférieurs, et l'on n'avait rien pu en tirer. Lui-même restait inconnu, invisible. Il demeurait à l'abri de tout un solide réseau de banques et d'hommes d'affaires anonymes, inaccessibles, inexpugnable. L'agent apporta bientôt le dossier demandé, enfermé dans une chemise de cuir noir, et le déposa sur le bureau. M. Smith l'ouvrit, en retira 3 liasses attachées d'une cordelette rouge. Il en défit une et en retira 3 photos qu'il passa côte à côte devant lui. C'étaient 3 agrandissements d'empreintes digitales et il n'était pas besoin d'avoir un œil très exercé pour voir que c'était les empreintes du même doigt, quoique prises dans des circonstances différentes. Le policier les compara avec une plus petite photo qu'il avait sortie de sa poche. Là aussi, il n'y avait pas de doute possible. Cette 4e empreinte, obtenue presque par miracle, d'une marque à peu près invisible, trouvée sur la dernière lettre du maître chanteur, à Lady Dex, appartenait bien à la même personne que les précédentes. M. Smith sonna de nouveau. « Monsieur est là, est-il à son bureau ?»« Oui, monsieur, il procède à des interrogatoires relatifs à l'affaire Doc. »« L'affaire Doc ? Ah oui, je m'en souviens. Il s'agit de 2 hommes surpris en train de piller l'entrepôt des douanes. Ils ont fait feu sur l'agent et se sont enfuis. » « Oui, monsieur, mais l'un d'eux a été blessé par le collègue de l'agent et des traces de sang ont été retrouvées jusqu'à l'auto qui les attendait. »« Bon, c'est cela. Eh bien, veuillez prier monsieur Ella de venir me trouver dès qu'il aura fini. » Monsieur Ella avait sans doute terminé son enquête, car peu d'instants après, sa longue silhouette mélancolique s'encadrait dans la porte du bureau de Smith. « Entrez donc, Ella, et dites-moi ce qui ne va pas. » « Mais j'éprouve de grandes difficultés à obtenir des témoins des déclarations concordantes. Impossible d'avoir le moindre indice sur l'identité des malfaiteurs. Le numéro de leur voiture était maquillé et elle n'a pu être suivie au-delà de Limehouse. Oh, je me meus dans le vide. Le seul fait certain, c'est que l'un des voleurs a été blessé, sinon tué, et emporté en auto par son complice, qui devra tôt ou tard le déposer quelque part. Ah, s'il s'agissait de mon cher Fallock, dit Smith en riant, ce serait pour moi un pas décisif. Qu'est-ce que ce malheureux voleur auprès de mon chevalier d'industrie? Eh, pas si vite, dit l'autre en riant à son tour. Mes voleurs ne paraissent pas être de l'espèce la plus commune. Ils s'étaient attaqués au bagage personnel de quelques passagers du Mandavia qui vient d'arriver des côtes d'Afrique. Des grandes malles de cale, vous savez, de celles que les voyageurs laissent au dock des douanes un jour ou deux avant de donner des ordres pour leur transport à une adresse définitive. Et les balles auxquelles mes voleurs en voulaient appartiennent au premier secrétaire du haut-commissaire du Congo et à une dame, dont j'ai oublié le nom, mais qui est la femme du gouverneur. Ils ont aussi forcé une petite caisse appartenant au docteur Goldsworthy, qui revient d'étudier au Congo la maladie du sommeil. Il est en effet surprenant, dit Smith, que des malfaiteurs prennent une auto, s'arment de revolver et mettent des masques. Car ils étaient masqués, n'est-ce pas? Pour une opération aussi triviale et vulgaire. Mais on voit des meurtres soigneusement préparés, qui rapportent quelques centimes. Enfin, en revanche, dit Ella, faites-moi part de ce qui ne marche pas de votre côté. Oh, l'affaire Fallock, toujours l'affaire Fallock, soupira Smith. Il vient d'essayer d'extorquer la modeste somme de 10 000 livres à Lady Constance Dex, sœur du révérend V. Harry Dex, recteur de Bradley, sous la menace habituelle de révéler un vieux scandale. Dex est un gros et doux aristocrate qui craint beaucoup sa sœur. Elle est une maîtresse-femme, encore très belle. Sa faute est du reste plus ou moins effacée. L'homme est mort en Afrique. Ce sont des circonstances qui comptent. Son frère sait tout, mais cet excellent Fallock prétend donner la plus grande publicité à cette histoire. Il a menacé de tuer la dame si elle portait la chose à la connaissance de la police. Dex est un gros et doux aristocrate qui craint beaucoup sa sœur. Elle est une maîtresse-femme, encore très belle. Sa faute est du reste plus ou moins effacée. L'homme est mort en Afrique. Ce sont des circonstances qui comptent. Son frère sait tout, mais cet excellent Fallock prétend donner la plus grande publicité à cette histoire. Il a menacé de tuer la dame si elle portait la chose à la connaissance de la police, et ce n'est pas la première fois qu'il profère de telles mises en demeure. Farrington, le millionnaire, en a reçu également. Chose curieuse, c'est un ami de Lady Dex. Bon, tout cela est bien étrange, dit Ella. Mais ce double meurtre de Brackley ne vous a-t-il fourni, directement ou indirectement, aucun indice? Smith se promenait le long en large, les mains dans ses poches. Il secoua la tête. Il s'appelait Ferreira de Costa et Henry Sands. Tous deux avaient dû être au gage de Fallock à un moment ou à l'autre. Le premier était un homme de bonne éducation qui a pu servir d'intermédiaire. Il était architecte de son métier et avait été inquiété à Paris pour des affaires d'argent. Sands, lui, avait été courrier commissionnaire, messager de confiance. Sur eux, je n'ai rien trouvé d'intéressant, sauf ceci. Il ouvrit son tiroir et en sortit un petit médaillon d'argent, assez joliment gravé dans le style ordinaire de la joaillerie à bon marché. On y voyait un monogramme à demi effacé. Le policier l'ouvrit. Il n'y avait à l'intérieur qu'un morceau de papier blanc et circulaire. « Oh, c'est une de ces petites étiquettes gommées que l'on trouve dans le commerce, » expliqua Smith. « Mais l'inscription a attiré mon attention. » Et là, prit l'objet et lut sur l'étiquette « Mur, mort, cot, God save the king, king. » La seconde ligne pour « God save the king », titre de l'hymne national anglais, note du traducteur. « Très patriotique, mais parfaitement incompréhensible, et d'ailleurs d'une orthographe plutôt barbare, » dit M. Smith en glissant le médaillon dans sa poche. Puis il referma le dossier et le plaça dans un de ses tiroirs. Et là, se mit à bâiller. Oh, excusez-moi, dit-il, mais j'ai affreusement sommeil. N'est-ce pas de Bradley que vous me parliez tout à l'heure? Oh, c'est une localité connue, me semble-t-il. Oui, c'est la petite ville qui a l'honneur de posséder la maison magique. Mais les excentricités des millionnaires américains qui bâtissent des maisons moyenâgeuses ne regardent pas la police. Venez-vous affronter le brouillard avec moi en auto jusqu'à Chelsea? Oh, il se pourrait que nous rencontrions ce cher Fallock. Ce disant, il mettait ses gants et prenait son pardessus. Vous êtes en veine aujourd'hui, vous allez faire des miracles. Hélas, j'aimerais bien mieux aller me coucher, répliqua Smith. Au dehors, le brouillard était si dense que les deux chefs policiers hésitèrent. Le chauffeur de Smith était un agent sage et patient. Mais sa sagesse même l'avertissait que sa patience serait mise à rude épreuve s'il s'agissait de conduire une auto à Chelsea. C'est aussi épais sur tout le parcours, dit-il. Oh, je viens de téléphoner au commissariat de Westminster et l'on me dit que c'est folie pure de sortir en auto dans cette atmosphère de foie. Bien, dit Smith, je coucherai ici. Faut trouver bien un lit quelque part par là, David. Et vous, Ella? Me ferai un petit tour à pied, répondit ironiquement son collègue. Ils revinrent au bureau de Smith. Celui-ci alluma l'électricité et demeura un moment pétrifié sur le seuil. Il n'avait pas été absent plus de 10 minutes, mais pendant ce temps, deux tiroirs de son bureau avaient été forcés. Le plancher était couvert de papiers éparpillés que le cambrioleur avait jetés autour de lui durant sa recherche hâtive. Smith s'approcha vivement, examina un de ces tiroirs. Le dossier Fallock avait disparu. Une fenêtre était ouverte et le brouillard entrait à flots dans la pièce. Il y a une tache de sang là, fit M. Hélas en montrant un buvard sur la table. Mais on s'est coupé en cassant la vitre, répondit Smith. Il se pencha à la fenêtre et aperçut, suspendue au bord du toit, une de ces longues échelles à crochets dont se servent les pompiers américains. Le brouillard était si épais qu'on ne pouvait apercevoir l'extrémité de l'échelle. Mais elle était faite de matériel si léger qu'il ne fallut pas de grands efforts aux deux policiers pour la tirer à eux. Mais le tachet de sang aussi, remarqua Ella. Et comme l'agent de Polanton arrivait à son coup de sonnette, il lui jeta rapidement ses ordres. Vite, tous les hommes disponibles à toutes les entrées de Scotland Yard, puis téléphonez au commandant de la caserne de Cannon Row de faire encercler complètement notre immeuble. Que l'on arrête tout homme qui s'est blessé récemment à la main. Transmettez ce dernier ordre à tous les postes de police. Oh, je crois que nous n'ayons pas la chance de retrouver ce brave homme, dit Smith en s'alarmant d'une forte loupe pour examiner l'empreinte sanglante laissée sur le buvard. Vous identifiez cette empreinte? Oui, c'est celle de Fallock. Il ne pouvait pas mieux signer sa feuille de présence. Mais maintenant, il vient d'apprendre précisément la chose qu'il devait ignorer. Qui est? Smith ne répondit pas tout de suite. Il continuait à considérer la tache de sang. Il sait exactement où j'en étais, mais s'il peut s'imaginer que j'ai d'autres renseignements en réserve, la partie ne sera pas perdue.